Radio Stable.
One edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Nous pensons que cette loi de dépénalisation est très importante, car on enlève la notion de crime dans la consommation de drogue, et on enlève également les préjugés que la société a sur les consommateurs de drogue.
Étonnant Portugal, où la consommation de drogue est entièrement dépénalisée. On ne parle pas seulement du cannabis, on parle de toutes les drogues, y compris les plus dures. Et est-ce que ça marche? Eh bien, vous allez le voir grâce à l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. Souleyra Taré et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Japon, en Afrique du Sud et au Brésil, 18h50. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? L'Europe telle que vous l'aimez, telle qu'elle vous agace ou qu'elle vous intrigue, avec Pierre Benazet ce soir, qui va tâcher de démêler l'imbroglio belge. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four, avec le choix des États-Unis de quitter la Syrie, choix contesté s'il en est, mais que Jean-Marc met à l'envers et trouve somme toute assez cohérent. Mais d'abord c'est en RDC que nous allons, République démocratique du Congo, plutôt mal en point, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Les élections en République démocratique du Congo sont donc repoussées, mais d'une semaine seulement. Ça va se passer le 30 au lieu du 23 décembre prochain. Donc au fond, j'allais dire, c'est pas si grave. On verra réellement ce que ça veut dire. Incapacité de mettre le scrutin en place, ce sont les raisons qui ont été expliquées. C'est pas le premier soubresaut, loin s'en faut, d'une élection qui est censée acter la fin du règne de Joseph Kabila. Bonsoir Vincent Hugeux.
Bonsoir.
Grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. La raison, l'incapacité technique à organiser une élection repoussée seulement d'une semaine, on y croit ou on n'y croit pas?
On y croit en partie. C'est vrai que là, on invoque des arguments logistiques et techniques. Ce qui peut sembler troublant, c'est quand on nous explique qu'il y a des soucis d'acheminement de matériel électoral pour un scrutin qui, si la Constitution avait été respectée, aurait eu lieu il y a 2 ans. Mm-hmm. Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait du temps pour
acheminer. Vous me direz, bon, 7 jours, on n'est plus à ça près. Mais comme souvent en RDC, l'ancien Zaïre, il y a là le mélange de considérations techniques relativement acceptables et de calculs politiques. Car l'enjeu véritable de ces élections, c'est bien sûr le maintien de l'emprise politique de Joseph Kabila et de son clan sur ce pays qui a conquis le surnom justifié de scandale géologique au regard de l'écart abyssal et obscène entre son potentiel et le sort de sa population.
Alors avant de venir au sort effectivement de Kabila, un mot quand même sur cette campagne. Mm-hmm. Les machines à voter, les fameuses machines à voter qui ont brûlé assez récemment, machines à voter électroniques dans certains endroits qui n'ont pas l'électricité. Qu'est-ce qu'on dit de la manière, de toute façon, dont ce scrutin a été organisé? Personne n'appelle à le boycotter. Même l'opposition n'appelle pas à le boycotter. Donc est-ce qu'on peut quand même imaginer que dans une semaine, il va y avoir en RDC des élections qui ressemblent à des élections?
Ce sera un simulacre électoral, un simulacre démocratique, alors plus ou moins sophistiqué. Vous direz que la RDC n'a pas le monopole de ce type d'égarement sur le continent africain. Mais il se trouve que cette échéance électorale devait être la fin d'un cycle Kabila. Je ne dis pas la fin de Kabila, mais bien d'un cycle Kabila, puisque au fond, ce qui se passe, c'est la version rumba congolaise du tango dansé il n'y a pas si longtemps par Poutine et Medvedev en Russie. En gros, Kabila finit par se plier aux objurgations, pas tant de la communauté internationale et de l'Occident, qu'il méprise ostensiblement, mais de ses grands voisins, grands puissants comme le Rwanda de Kagame, mais bien sûr l'Afrique du Sud. Et il dit à son apparatchik de service, donc Ramazani Shadari, ministre de l'Intérieur jusqu'alors, au fond, tu me gardes la place, tu me la chauffes et je reviens dans 6 ans.
Oui, sauf que pour l'instant, et si on en croit les sondages, je sais pas ce qu'il faut penser des sondages dans un pays désorganisé électoralement comme celui-ci, mais il est, je sais pas, c'était autour de 16%. En dernier sondage. Donc, si les élections avaient lieu demain dans des conditions à peu près normales, il n'est pas élu, ce monsieur.
Oui,
donc, est-ce que ça veut dire que le 30, subitement, on aura un regain de popularité étonnant,
y a
une remontada de monsieur Shadari?
Il y a bien d'autres techniques pour s'assurer de la bienveillance des urnes et de leur verdict. C'est-à-dire que, d'abord, n'oublions pas que c'est un scrutin à un tour. Mm-hmm. Et le scrutin à un tour, c'est un déni de démocratie bête et brutal. C'est la martingale du despote plus ou moins élu. Ça veut dire qu'en face de lui, s'il y avait eu, comme cela a été un temps envisagé, un rêve passe, un seul candidat de l'opposition, il aurait été effectivement dans une situation acrobatique. Surtout que sa notoriété, évidemment, reste relativement modeste sur l'ensemble du territoire. Mais voilà, il y avait eu un très éphémère miracle à Genève, puisqu'après un très long conclave, on avait fini par dégager une candidature unique, celle de Martin Fayoulou. Ça a tenu 24 heures, puisque entre...
Étaient 7 autour de Fayoulou, et encore que 7, finalement, c'est pas beaucoup au regard des 21 candidats, cela dit.
Sur les 21 candidats, certes. Vous avez ce qu'on appelle pudiquement beaucoup de candidatures de témoignage ou carrément fantaisistes. Ouais. Donc non, là, ce qui était prometteur, c'est que pendant... un instant au moins, les monstres de la scène politique ex-zaïroise, style de Tshisekedi, etc., avaient rangé un peu leur ego de côté, et puis cela n'a pas tenu. Alors ils ont invoqué évidemment le courroux de leur base, je suis leur chef, il faut bien que je les suive, pour renier, moins d'un jour après ce pacte, l'engagement qui était le leur. Et donc on se retrouve devant une adversité qui fait que, même avec 18 ou 20% des suffrages, si vous avez face à vous un émiettement de l'opposition, vous êtes élu. C'est pas glorieux, mais c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a malgré tout, qu'est-ce que dit le peuple autour? Est-ce qu'il y a une sorte de candidat du peuple en RDC ou pas?
Non, parce que s'il y avait un peuple, il pourrait y avoir le candidat du peuple. Il y a des candidats des différents peuples qui composent ce pays continent. Et en réalité, personne à ce stade n'a réussi à cristalliser l'immense ressentiment qu'éprouvent beaucoup de Congolais. C'est-à-dire que je mets de côté les allégeances, je dirais quasiment obligatoires, de ceux qui doivent tout au clan au pouvoir. Mais vous aviez par exemple deux autres poids lourds qui ont été évincés de la course. Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de la puissante et riche province du Katanga, qui a été condamné après quelques artifices judiciaires acrobatiques à 3 ans de prison et qui est en exil. Vous avez Jean-Pierre Bemba, qui a été dans une vie antérieure vice-président de la RDC, qui a été acquitté par la Cour pénale internationale voilà quelques mois, mais qui a été également interdit de course à la présidence. Donc on ne peut pas dire, hélas, qu'il y ait une personne. S'il y en avait une, elle n'appartient pas au monde politique. Ce serait par exemple un Denis Mukwege, coloré du prix Nobel de la paix, ce formidable gynécologue obstétricien.
Et qui n'est pas rentré en RDC alors qu'il devait rentrer ces derniers jours et qui a préféré pour l'instant ne pas rentrer. Ouais.
Il souhaitait rentrer le 20 et on a appris par son entourage qu'il considérait qu'il serait déraisonnable dans l'atmosphère qui règne en ce moment. Car vous faisiez allusion à l'instant à la campagne électorale, elle est d'une incroyable violence.
Alors j'allais vous poser la question, est-ce qu'on a pu, j'ai l'impression d'avoir moi-même la réponse, est-ce qu'on a pu faire campagne dans ce pays?
Oui, effectivement, la réponse est un peu dans la question. Il y a eu des faits de campagne, il y a eu des meetings, mais vous avez eu aussi des meetings interdits ou empêchés. Vous avez tel candidat de l'opposition qui ne peut pas monter à bord de son petit bimoteur à hélice pour aller animer une réunion politique à l'autre bout du pays. Et puis vous avez eu un épisode assez rocambolesque pas plus tard qu'hier, où donc le fameux Martin Fayoulou, qui fut un temps le candidat commun de l'opposition et qui reste un candidat de l'opposition, devait rejoindre Kinshasa pour une réunion publique. Il en a été empêché par les forces de l'ordre. Alors qu'au même moment, un ministre de l'Intérieur, qui est lui candidat à la députation, car on vote aussi pour l'Assemblée et pour les gouvernements provinciaux, eh bien lui, à ce moment-là, il tenait tranquille comme Baptiste son meeting électoral au cœur de Kinshasa. Cherchez l'erreur.
Vous le disiez, la Chambre basse, 500 députés, ça fait beaucoup de monde, renouvelé
bien
aussi.
Payé.
Voilà, 26 assemblées provinciales, près de 20 000 candidats pour 780 sièges. Qu'est-ce que ça dit, ça, de la RDC, ce rendez-vous-là?
Ça dit que le système électoral... même dans sa dimension simulacre, c'est aussi un instrument d'ascension sociale et de prestige. C'est générateur de revenus, car les salaires de ces messieurs et dames sont incroyablement confortables au regard du niveau de vie moyen du pays. Et puis, c'est une manière de se positionner aussi sur le contrôle de telle ou telle facette des ressources prodigieuses de ce pays, dont les entrailles sont truffées d'or, de diamants, de cobalt, d'uranium, de cuivre, de manganèse et tout le toutim. Donc voilà, ça dit ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment, quand je parle de simulacre électoral, on est dans une sorte de mascarade où, au fond, on expose toutes les normes, tous les codes d'une compétition électorale dont on sait qu'elle est parfaitement piégée dès l'instant où elle commence.
Et elle n'est pas observée non plus. Les observateurs ont été refusés. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont eu droit au terrain? La commission électorale indépendante apparemment a dit qu'elle pouvait se débrouiller toute seule.
Oui, c'est pire que ça. C'est-à-dire que l'État congolais, donc le clan Kabila à ce stade, considère qu'il n'a besoin d'aucune assistante, d'aucune nature, même pas par exemple les moyens aériens de la MONUSCO, la mission de l'ONU, qui est l'une des plus anciennes et qui est la plus puissante et la plus dépensière des missions onusiennes sur la planète. Donc, pas besoin de vous. Et ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de vous. Écoutez, le coût de ces élections, c'est quand même 10% du budget annuel. Donc, un petit coup de pouce financier n'aurait pas fait de mal. Mais ça veut dire qu'on est tellement arc-bouté à une vision obsidionale de la souveraineté nationale qu'on refuse toute ingérence. Mmh. Car ce qu'on refuse aussi, bien sûr, c'est les missions d'observation étrangères et indépendantes. Alors, vous avez une formidable société civile dans un contexte d'écrasement de l'adversité, avec des mouvements comme la Lucha, la lutte pour le changement, Filimbi, etc. Ils vont faire ce petit travail de terrain. Mais évidemment, sur un pays aussi vaste, enfin, il y a quand même 80 000 bureaux de vote dans un pays qui est 4 fois grand comme la France et 80 fois grand comme son ancienne puissance coloniale, le Royaume de Belgique.
Est-ce qu'on risque sa vie dans certains endroits quand on va voter en RDC?
Quand on milite, oui. Dans certains endroits, quand on va voter aussi, parce que vient s'ajouter à ce paysage politiquement désespérant une réalité de violence locale qui n'a rien à voir avec les enjeux politiques. Vous avez des guérillas locales. Je vous donne juste un exemple. Mm-hmm. Il y a une guérilla musulmane ougandaise qui s'appelle l'AFD dans le territoire de Beni, qui est à l'extrême est du Congo dit démocratique, qui commet des atrocités, mais absolument abject. Et donc, dans ces provinces-là, oui, sortir, même aller au champ, aller travailler, c'est risquer sa vie, déjà.
Qu'est-ce qui se passe donc après le 30? D'abord, alors, pardon, vous ne pouvez pas lire dans le marc de café, mais est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où le 30, on nous explique, ben non, on n'est pas tout à fait prêt non plus, donc ce sera plutôt le 7 janvier, et puis le 12, et puis on arrive à une situation qui ressemblerait à celle de 2016, où deux ans après, c'est toujours pas fait. C'est une possibilité, ça, ou pas?
Et on termine par ce qu'on appelle au sud du Sahara le mandat cadeau. Non, je pense que ça, c'est pas envisageable, parce que tout simplement, si on va au-delà du report technique et qu'on nous explique qu'au fond, ça serait quand même très bien de faire ça en juin 2019, là, on change de catégorie, on est dans autre chose. Or, Kabila a besoin, ne serait-ce que pour sauver les apparences, d'être le chef d'orchestre d'une transition à peu près normale. Donc, il ne peut pas jouer à ça, il ne peut pas faire ça. Ou alors là, on entre dans une installation d'une forme de dictature, puisqu'il gardera, soyons-en convaincus, évidemment, la haute main sur l'appareil militaire et sécuritaire. Il laissera à son apparatchik la gestion du quotidien et de l'intendance.
Et en même temps, alors les Congolais sont pas fous. Ils se rendent bien compte qu'on est en train de faire une Medvedev, comme vous dites, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce que le risque existe de vraies manifestations, de heurts dans les rues? Il y en avait eu après 2016 notamment. Est-ce que le risque est grand de quelque chose d'extrêmement important et de très grave ou pas?
Oui, on risque effectivement d'entrer de nouveau dans un cycle de manifestations parce que la colère politique et sociale est extrêmement intense. On connaît le type de répression qui est appliqué en RDC, que ce soit à Kinshasa ou en province. Donc oui, on peut tout à fait, après cette mascarade électorale, entrer à nouveau dans un cycle de violence, avec à chaque fois des civils tués, blessés gravement, par balles, tirs réels, etc. Oui,
est-ce
c'est hélas tout à fait envisageable.
La Constitution dit quoi sur s'il y a un numéro de passe-passe comme celui que vous dites? La Constitution dit quoi? Est-ce qu'il y a un blanc qui fait qu'effectivement on s'engouffre dans ce trou?
Alors déjà, la Constitution dit quelque chose d'assez problématique, c'est que la transmission effective du pouvoir du président sortant, Joseph Kabila, à son successeur ne devient opératoire que lorsque on considère que le processus est achevé. C'est-à-dire que si on entrait dans ce que vous dépeignez à l'instant, c'est-à-dire une sorte de phase de tension permanente, on pourrait trouver là un prétexte pour prolonger encore de quelques semaines, voire de quelques mois, le pouvoir effectif de Kabila.
De toute façon, le pouvoir effectif de Kabila, on a bien compris, n'est toujours pas fini. Est-ce qu'il y a un après-Kabila possible en RDC, selon vous, à part la mort de Kabila?
Il faudra bien qu'il y ait un après-Kabila. Ce qui est, très préjudiciable à l'installation d'un système démocratique dans ce pays, c'est que le dévoiement des codes démocratiques, l'élection elle-même, ma voix compte, elle pèse, eh bien, finit très souvent, et encore une fois en RDC comme ailleurs, par dissuader presque le citoyen, la citoyenne de se rendre à l'isoloir. À quoi bon ? Puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi parfois un risque physique d'être au mieux marginalisé, ostracisé, au pire d'y laisser sa peau. Donc il peut y avoir, avec cette sorte d'usure-là, à force de simulacres électoraux, une sorte de désamour durable pour ce qui apparaît comme un exercice parfaitement artificiel.
On se donne rendez-vous le 30, donc 30 décembre, le prochain rendez-vous électoral, comme vous y allez. Prochain rendez-vous 30 décembre 2018, prochain rendez-vous électoral apparemment. Donc en RDC, on a bien compris que rien n'était simple. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. Merci beaucoup.
Merci.
Une fois.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'un jour dans le monde, ça se passe au Portugal où les drogues sont toutes autorisées à la consommation depuis presque 20 ans. Et pour quel résultat? Eh bien, vous le découvrirez avec l'escale reportage d'un jour dans le monde sous les radars et Amélie Perrier avec des éthylotests, tenez-vous bien, en avion au Japon. Parce que oui, pour certains pilotes, il le faut. Bonsoir Bruxelles, l'Europe comme tu l'aimes ou tu la quittes avec Pierre Benazet qui tentera de démêler les chevaux belges. Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et vous, vous trouvez qu'il est cohérent ce Donald Trump alors sur la Syrie?
On s'étonne de sa décision, mais c'est étrange de s'étonner, il est tout à fait cohérent avec lui-même. Oui.
Et on verra ça tout à l'heure à 18h55, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Wisconsin avec William Z. Villain, Something's Beautiful.
Something beautiful. Something something beautiful. Out the moon.
Williams, Evie Lane sur France Inter, Something Beautiful, sous les radars et Amélie Perrier, c'est là. Power Hit Radio. Magic FM. Amélie, voilà un accessoire obligatoire dans les voitures et aussi désormais dans les avions, l'éthylotest.
En tout cas dans les avions des compagnies japonaises. Les autorités ont décidé de sévir des tests obligatoires pour les pilotes car ces derniers temps, une série de vols ont été retardés à cause de personnel sous. Le mois dernier, un copilote de la Japan Airlines a été arrêté
hyper rassurant.
Au Royaume-Uni. Oui. Juste avant le départ de son vol, il avait un taux d'alcoolémie dans le sang 10 fois supérieur aux limites légales.
Beauty, here, fresh top.
Yes! Look what the Dutch got going up on board this thing.
Alors ici, c'est une pub hein, pour KLM qui se vante de servir des bières pression à ses passagers. Ravi. Mais là, on parle bien des pilotes. Alors selon les règles actuelles, les membres d'équipage ont l'interdiction de consommer de l'alcool pendant les 8 heures précédant leur prise de poste. Mais il n'y a pas de plafond légal d'alcoolémie. Ils peuvent boire ce qu'ils veulent du moment que c'est 8 heures avant la prise de poste. Alors si vous devez prendre l'avion pour les vacances, rappelez-vous quand même que l'avion reste le moyen de transport le plus sûr.
C'est tellement rassurante. En Afrique du Sud, c'est un hamburger qui passe mal.
Oui, une pub pour une chaîne de fast-food vient d'être interdite. Elle se veut pourtant drôle, c'est pour un hamburger, le Big John, l'histoire d'un jeune Africain qui a soif d'aventure.
A long, long time ago, when leather was still in fashion, a young man left his home to satisfy his hunger for adventure.
Soif d'aventure, on le voit prendre la mer, ce jeune aventurier. Sur un radeau, il vainc les requins, les pieuvres. Il arrive jusqu'en Hollande, tel un Christophe Colomb noir, découvrant une terre nouvelle avec des indigènes blancs qu'il baptise Europe. Alors les régulateurs sud-africains viennent d'interdire cette publicité car selon eux, on ne plaisante pas avec la colonisation. Alors, renverser l'histoire de la colonisation pourrait être perçu comme de l'humour, mais la réalité a été traumatisante, explique l'instance. On ne fait pas de blague avec ce passé-là.
Voilà, on ne fait pas d'humour avec tout le monde. Le Brésil, son carnaval, ses mojitos et aussi sa violence.
Mais c'est pas un mythe ni du cinéma. Pas du cinéma, même si là vous avez peut-être reconnu la bande-annonce du film La Cité de Dieu, l'histoire d'un quartier ultra violent de Rio. Ça se passait dans les années 60-70. Sauf que ce n'est ni de la fiction, ni du passé. Et la police ne calme rien du tout depuis janvier. Les agents ont tué 1444 personnes dans l'état de Rio. Un bilan annuel rapporté par l'ONG Human Rights Watch qui souligne que Rio termine l'année avec un record de morts sous les balles de la police depuis que l'agence étatique chargée du recensement a été créée il y a 20 ans. L'ONG insiste, les opérations de sécurité proches d'opérations militaires dans ces quartiers pauvres n'améliorent pas du tout la sécurité publique. Au contraire, les habitants craignent davantage les forces de l'ordre, si on peut les appeler ainsi, et vont moins collaborer dans la lutte contre les criminels. Et les recherches de l'organisation vont plus loin. Si parfois les policiers de Rio tuent par légitime défense, beaucoup de morts en réalité sont des exécutions extrajudiciaires des criminels abattus sans procès. Le bureau de la sécurité de Rio s'était engagé au début de l'année à réduire de 20% les homicides par la police, ils ont augmenté en fait de 39% par rapport à l'année dernière.
Dans Mélie, sur un ton plus léger, avant qu'on reçoive des tweets, le Brésil, c'est Mojito, c'est ça que vous avez dit ? Au Brésil, c'est la caipirinha. Je dis ça, je dis rien,
ouais,
mais c'est important.
Bah vous y connaissez beaucoup plus que moi.
Attendez,
ça,
les mojitos sont cubains. C'est le verdict très attendu des passionnés de mode et de décoration, la couleur de l'année.
C'est peut-être très futile, mais c'est quand même une institution, Pantone, entreprise américaine qui invente des couleurs depuis plus de 150 ans, décrète chaque année la teinte phare, celle qui donnera le la des tendances à venir. Un verdict prononcé grâce à des bureaux d'experts et celle de l'année 2019. Vous avez fait votre pronostic, non vous
Oui,
vous
oui,
pas
j'ai
du
une petite idée. J'adore la déco, de toute façon, allez-y.
Et ben, ce sera le Living Coral, un corail tonique, vibrant, effervescent, nous dit Pantone, un rose orangé en fait. Son autre code dans le nuancé, c'est Pantone 16 15 46. Living Coral, un corail vivant, c'est peut-être quand même un manifeste pour sauver l'espèce menacée, un peu d'espoir pour 2019.
Pantone 16 15 46, c'est tellement glamour comme couleur de peinture. Merci beaucoup, Amélie Perrier, on se retrouve demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Portugal que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Étonnant, au Portugal qui a dépénalisé, pas légalisé, mais dépénalisé la consommation de drogue depuis 2001. Et on parle bien de toutes les drogues, pas simplement le cannabis, les drogues dures aussi. Le consommateur au Portugal n'est pas considéré comme un criminel, mais comme un malade. Le pays a mis en place un encadrement sanitaire, médical, social, pour venir en aide aux toxicomanes. Et bonsoir à vous, Domiti Piron.
Bonsoir.
Domiti, dans les faits, cette pratique très différente évidemment de la nôtre se traduit par une baisse considérable des décès par overdose, du nombre d'héroïnomanes aussi, ainsi que des contaminations par le VIH. Vous nous amenez, Domiti, en maraude avec une équipe de réduction des risques auprès des toxicomanes à Lisbonne.
Inès et Andrea de l'association Cresser s'annoncent à leur arrivée. Elles se rendent sous un pont dans le quartier de Biato à la rencontre d'un SDF toxicomane. En contrebas, on aperçoit la silhouette de ce jeune homme en train de s'injecter une dose d'héroïne. Un autre homme, Alberto, sort d'une tente et s'approche de nous en titubant.
Ah, vous arrivez à cette heure-là ?
C'est-à-dire ? C'est la bonne heure ou pas ?
Oui, oui, la bonne heure. Mais bon, vous savez comment c'est. On était en train de... Bah, vous connaissez, quoi.
Oui, on respecte ça. Tu sais, c'est notre travail. Quand tu t'es injecté, tu as pris du Subutex, le traitement en substitution ?
Non. La dernière fois que j'ai pris du Subutex, c'était il y a 2 ou 3 jours. Parce que je travaille dans la construction civile, dans la restauration de bâtiments. Et quand il y a mon patron, je prends du Subutex. Parce que sinon, c'est trop cher.
Et tu as déjà été accompagné par une équipe de traitement ?
Oui, j'ai déjà été accompagné.
Alberto est séropositif, il le sait et fait très attention. Alors quand les filles de l'association Cresser arrivent, c'est pour lui un soulagement, car elles distribuent des seringues propres ainsi que des kits pour injection, du papier aluminium pour fumer du crack, des lingettes désinfectantes et des préservatifs. L'association Cresser a été créée en 2001 quand la loi de dépénalisation a été adoptée. Cette loi n'autorise pas la consommation, mais considère que la possession de l'équivalent de 10 jours de consommation personnelle de tout type de psychotropes et la prise de ces drogues n'est plus un crime. Andrea Alves est assistante sociale.
Nós achamos que é muito importante a parte da descriminalização, porque obviamente vem tirar aqui a parte toda que os utentes...
Nós pensamos que esta lei de depenalização é muito importante, car on enlève a noção de crime na consommação de drogas. Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de criminalité, mais d'un problema de santé. E on enlève également les préjugés que la société a sur les consommateurs de drogas. Les Portugais ne voient plus les drogués comme des criminels, mais comme des gens qui ont besoin d'être aidés. Et ça, c'est très bien. Mais cette loi de 2001 n'aurait pas eu de tels effets sans la loi qui a suivi et qui apporte toutes les réponses au niveau social et sanitaire, ainsi que des solutions pour aider les consommateurs.
Toutes les réponses au niveau social et de santé qui viennent donner réponse à cette population.
Ces solutions, ce sont des hébergements pour personnes dépendantes, des cabinets de consultation, des traitements à la méthadone ou encore les équipes de rue comme celle d'Inès et Andrea qui aident au moins 1200 personnes par an et font également de l'accompagnement social. En continuant notre tour des points de consommation de Lisbonne, nous passons d'un terrain vague où des hommes assez âgés s'injectent de l'héroïne dans des petits campements à un recoin de HLM où un groupe de quarantenaires consomme du crack en discutant autour d'une table. Les salles de consommation assistées sont prévues par la loi mais ne sont pas encore mises en place au Portugal et Antonio le regrette.
Gostávamos ter conditions assim para...
On aimerait avoir les conditions pour, comme dans d'autres endroits, pour faire ce genre de... pour traiter notre maladie. Parce qu'au final, c'est ça, on est malade. Mais ce serait intéressant d'avoir ces salles de consommation pour être mieux installées. Parce qu'ici, il y a des enfants et ils ne peuvent pas sortir pour faire du vélo ou jouer à la balle et rester dehors tout seul. À cause de nous.
À bola e essa coisa assim, e não podem porque as pessoas estão aqui.
Antonio explique qu'il ne souhaite pas suivre un traitement car selon lui sa consommation n'est pas problématique.
Tudo bem?
Tudo. Minha
tá bem?
Tá bem, obrigada.
Quer ficar conosco? Je m'appelle Manuel Cardoso. Je suis sous-directeur du CICAD, le service d'intervention pour les comportements addictifs et de dépendance, qui est une branche du ministère de la Santé du gouvernement portugais.
Le CICAD est chargé des commissions de toxicomanie. Si un consommateur de drogue est contrôlé par la police, il est alors envoyé vers cette commission, composée de psychologues, médecins, assistants sociaux et policiers.
Ils reçoivent le consommateur qui est envoyé par la police et ils tentent de percevoir les raisons pour lesquelles cette personne consomme de la drogue. Ils évaluent le risque et les évolutions de sa consommation, les raisons ou encore les risques pour sa santé s'il continue de consommer.
Et inclusivement pour percevoir si il a notion que está a commettre.
Il tente également de savoir s'il est conscient que ce qu'il fait est illégal et qu'il commet une infraction. Après l'évaluation du risque, le consommateur peut être orienté vers une équipe de traitement, une équipe de prévention, où la commission fait simplement des remarques et donne des conseils. En général, une des sanctions les plus communes est l'obligation de se présenter régulièrement dans un centre de santé ou à la sécurité sociale.
En 15 ans, cette politique a permis de diviser par 4 le nombre de consommateurs réguliers d'héroïne. Et les morts par overdose, le nombre d'affections au VIH et hépatite ont drastiquement chuté.
Domiti Piron pour le reportage au Portugal. Merci beaucoup. Ça faisait longtemps, on est content de les réentendre. Björk, It's Oh So Quiet.
Oh, so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you find. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, start another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so what's the use, wow, of falling in love? It's oh so quiet. Riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts
It's all so quiet, nous dit Björk sur France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme tous les jeudis dans Un jour dans le monde. Ce que vous aimez de l'Europe, ce qui vous hérisse le poil, ce qui vous fait lever un sourcil aussi. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir Fabienne.
Et là, pour le coup, Dieu sait qu'on le lève le sourcil. C'est chez vous, à Bruxelles, que vous nous emmenez, Pierre, avec le gouvernement de Charles Michel qui est tombé. Et tout ça, pardon de le dire comme ça, semble finalement assez classique. On se souvient de 2010 et 2011, quand la Belgique a battu le record du monde. 541 jours sans gouvernement. Et cette fois-ci, c'est sur le pacte des Nations Unies sur les migrations que chute le gouvernement. Et la question qu'on a plutôt envie de vous poser, Pierre, c'est qu'est-ce qui rend la Belgique aussi instable ?
Ben ça, on dirait que c'est une instabilité génétique en fait des institutions belges. On a créé ici il y a un quart de siècle un État fédéral qui était censé résoudre la crise entre les flamands et les francophones. Je pense qu'ils l'ont résolu tout seul sans l'aide des politiques. Mais du coup, ça a dédoublé le nombre des partis qui étaient déjà relativement scindés par la langue. Mais le résultat, c'est que pour former un gouvernement, il faut généralement une coalition au moins de 4 partis pour avoir la majorité au Parlement, c'est-à-dire plus précisément la Chambre des représentants.
Et alors, il n'y a plus que 3 partis depuis des jours, et du coup, ce gouvernement est minoritaire à la Chambre des représentants, c'est l'idée.
Oui, depuis le départ de la NVA, l'Alliance néo-flamande, ce gouvernement n'a plus la majorité des députés, et c'est là qu'on touche du doigt les limites du système. C'est un peu comme la 4ème République en France, souvenez-vous, 22 gouvernements en 10 ans. En Belgique, les gouvernements durent plus longtemps que sous la 4ème, mais la difficulté, en fait, c'est de les mettre en place.
Enfin, souvenez-vous, comme vous y allez, si je puis me permettre, c'est pour ça d'ailleurs,
pardon,
en tout cas, que le roi Philippe... que le roi Philippe n'a toujours pas accepté la démission de Charles Michel.
Il y a sûrement de ça, parce que pour l'instant, le gouvernement, il est toujours officiellement, on va dire, en place, même si en réalité, il est bien mort quand même. Tant que le roi des Belges n'a pas pris de décision formelle, il a fait savoir qu'il la mettait en suspens, cette décision, ça fait déjà 48 heures. Mais bon, en regard des 541 jours dont vous parliez, sans gouvernement en plein exercice il y a 7 ans, c'est pas grand-chose. Et puis le roi Philippe n'a pas encore l'habitude, puisqu'il est monté sur le trône qui a 5 ans, et c'est le roi Albert qui avait géré la crise précédente. Et puis apparemment, même si c'est très sérieux, selon tous les politiciens qui en parlent, évidemment. Mmh. On peut quand même peut-être relativiser, puisque par exemple, hier, le roi des Belges a interrompu les consultations des présidents de parti pour aller assister au concert de Noël offert à tous ses concitoyens.
Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, cette démission, c'est un accident mineur.
En tout cas, on a entendu beaucoup de Belges dire lors de la crise la dernière fois que c'était pas si mal de pas avoir de gouvernement. Un argument qui est ressorti récemment assez fort lors des manifestations des Gilets jaunes en Belgique. Et puis, on n'oublie pas quand même qu'il y a aussi un gouvernement flamand, un gouvernement wallon, un gouvernement de la communauté germanophone et un pour la région de Bruxelles. Donc, on manque pas de gouvernement, en fait. Et je sais pas si ça rassure qui que ce soit ici, mais il faut bien dire que le fait d'être en affaires courantes pour un gouvernement, ça n'a pas empêché la dernière fois, en 2011, le gouvernement en affaires courantes d'envoyer l'armée de l'air belge participer aux frappes contre la Libye.
Alors, sauf que cette fois-ci, et on en a évidemment beaucoup parlé, c'est le pacte de l'ONU sur les migrations qui fait exploser la coalition.
Oui, c'est un peu le symptôme des tiraillements, des frustrations politiques. Pour la première fois depuis des décennies, il y avait une coalition fédérale quasiment monochrome, 4 partis de centre-droit et de droite, et surtout, dans cette coalition, il y avait la NVA, l'Alliance néo-flamande, tous ces partis, de même d'ailleurs que les socialistes, ont perdu des plumes lors des dernières municipales en octobre. Les votes se sont reportés sur les écologistes et l'extrême-gauche, mais aussi pour la Flandre, sur l'extrême droite, à savoir les indépendantistes du Vlaams Belang.
Mais Pierre, en un mot, qu'est-ce qui a amené le pacte des migrations sur le tapis, au fond ?
Ben, c'est la NVA, l'Alliance néo-flamande. Elle s'est prise à penser qu'il fallait aller à fond vers une rhétorique vraiment de droite dure pour ramener dans ses filets les électeurs partis vers le Vlaams Belang. Du coup, la NVA a sauté dans le train de la contestation du pacte, qu'elle appelle plus d'ailleurs que pacte de Marrakech, pour bien jouer aussi sur une xénophobie espérée par eux à l'encontre des immigrants marocains qui sont nombreux dans le royaume. Et tous les coups sont bons parce que dans ses efforts d'infox autour du pacte, la NVA a même réussi à utiliser les images d'une campagne anti-immigration d'Alternative für Deutschland, l'AFD, en Allemagne.
Voilà, et on sait que ce qu'on attend maintenant, c'est de savoir s'il y aura des élections anticipées ou pas, ou si on continue pour l'instant avec les affaires courantes. Vous nous raconterez ça à l'occasion dans Un jour dans le monde, Pierre Benazé. Merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, une nouvelle fois, Donald Trump secoue le cocotier géopolitique. Il a donc annoncé, évidemment sur Twitter, le retrait des troupes américaines de Syrie. Une annonce qui a déclenché une tempête de réactions, de surprises, d'inquiétudes aussi, y compris d'ailleurs au sein du Parti républicain, celui du président. Et comme toujours, vous qui regardez le monde à l'envers, vous dites, si Trump était finalement très cohérent dans cette affaire.
Bien sûr qu'il est cohérent. À chaque fois qu'il sort un tweet iconoclaste, tout le monde ou presque se dit stupéfait, pousse des cris d'orfraie, alors que franchement, il n'y a plus matière à s'étonner, ni de la forme. On sait qu'il annonce ses décisions politiques par des tweets le matin au saut du lit, ni du fond. Trump fait uniquement ce qu'il dit. En l'occurrence, il a toujours dit depuis 2 ans qu'il allait retirer les soldats américains de Syrie. Il en reste 2000. C'est une promesse de campagne et pour lui, c'est un argument qui écrase tous les autres. Il veut pouvoir dire à son électorat « j'ai tenu parole ». Il avait d'ailleurs failli annoncer ce retrait de Syrie en avril dernier et à l'époque, Emmanuel Macron s'était même félicité publiquement de l'avoir fait renoncer. Donc on va pas dire que c'est une surprise. Quant à son argumentaire pour justifier cette décision, il n'a jamais varié non plus. Il tient en 3 points. 1. Les États-Unis étaient en Syrie pour battre le groupe État islamique. Aujourd'hui, mission accomplie, en tout cas c'est son avis. Et là aussi, il l'a déjà dit devant l'ONU en septembre. 2. Nos gars seront mieux à la maison qu'ils rentrent. 3. On économisera de l'argent parce que cette guerre coûte un bras aux États-Unis, 50 milliards de dollars en 5 ans. Trump n'a pas modifié son argumentaire d'un iota, il l'a redéveloppé avec plein de tweets ce matin. Donc zéro surprise, il est logique avec lui-même.
D'accord, mais la question suivante c'est, est-ce qu'il a raison ?
Alors, il y a 2 questions dans la question. Est-ce qu'il a raison en disant défaite du groupe État islamique ? Et est-ce qu'il a raison en termes de stratégie géopolitique pour la région ? Dans les deux cas, la réponse est forcément subjective. D'abord sur les islamistes. Trump dit « nous avons gagné ». C'est faux. Mais c'est pas totalement faux. Le groupe État islamique contrôle encore des poches du territoire syrien, essentiellement près de la frontière irakienne. Il conserve un pouvoir d'attraction idéologique avec un potentiel terroriste en Europe. Je vous fais pas un dessin. Donc non, le boulot n'est pas fini. Mais le président américain n'a pas complètement tort non plus. Le territoire contrôlé par les islamistes s'est quand même réduit comme peau de chagrin. Et surtout, pour combattre leur pouvoir de nuisance en Occident, il n'est pas certain que des troupes en Syrie soient l'option la plus efficace. En tout cas, ça peut se discuter.
Et alors, sur la stratégie géopolitique, alors il a pas tort non plus ?
Verdict encore plus subjectif. À première vue, en se retirant de Syrie, les États-Unis laissent le champ libre à leurs rivaux, la Russie, l'Iran. Donc on se dit mauvais calcul. Sauf que ce calcul est assumé. Là encore, il suffit de lire Trump dans le texte, ses tweets de ce matin. Que ces pays se débrouillent avec la Syrie, c'est loin de chez nous, c'est pas notre problème. Il assume le désengagement. Il ne veut plus être le gendarme du monde. Là aussi, il l'écrit ce matin tel quel. Ça ne nous rapporte rien, dit-il. Enfin, il y a une dernière dimension à ce choix de Trump, c'est aider la Turquie. Ça n'est pas dit publiquement, mais c'est un choix. En retirant ses troupes, on sait qu'il laisse le champ libre à une opération militaire turque contre les Kurdes. Pourquoi ? Eh bien, peut-être en contrepartie d'un gros contrat de défense. L'achat par la Turquie de missiles américains Patriot, 3,5 milliards de dollars, au détriment du matériel russe.
Et rapidement, Jean-Marc, c'est quand même aussi immoral tout ça, parce que Washington lâche les Kurdes et aussi ses alliés occidentaux, la France, le Royaume-Uni.
C'est immoral, mais les relations internationales, c'est immoral souvent. Trump, il est immoral souvent. On ne va pas faire mine de découvrir la Lune. On devrait avoir compris maintenant. Il n'a que faire de ses alliés européens. Ça ne le dérange pas de lâcher les Kurdes qui ont fait le sale boulot contre l'État islamique. Ça ne nous plaît pas. Ça nous met dans la mouise en Syrie, ok. Mais Donald Trump se désintéresse de savoir ce qui nous plaît.
Jean-Marc Four, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup.